Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a des fuck you des fois. Moi, j'ai jamais dit fuck you parce que je dis fuck you, je prends 10 matchs.
Vous aurez plus Verratti qui vient violer pendant 7 ans alors qu'il doit pas finir un match parce qu'il doit prendre jaune tous les jours.
C'est ça ?
Parce que là, on s'est fait chier dessus avec les arbitres.
Hey, monsieur, le carton ! Il faut donner le carton !
J'essayais de prendre lui dans les pantalons. C'était pas un bon choix.
Moi, je le suis sur Insta, il est toujours dans son resto, il fait la fête, c'est son anniversaire.
Viens pas me parler du pizza de ton quartier. C'est bon ou c'est pas bon ? Basta.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h07, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Jean-Louis Tour est là. Vous savez que c'est la 20e saison de l'after et qu'on vous prépare plein de surprises qui vont vous étonner.
Vous allez les annoncer,
vous bluffez
un jour.
On va bientôt parler pizza.
Ça fait un mois qu'on entend ça.
On va bientôt parler pizza.
La plus grosse de toutes les surprises, elle est pour bientôt. Mais vraiment, elle est énorme.
Ah bon.
Alors là, je t'annonce que là.
Mais pourquoi bah, non, c'est pas maintenant. Là, il y a un plan de com.
Il y a une stratégie. Il y a un plan de com. Voilà, c'est comme ça.
C'est infernal.
C'est comme ça.
C'est comme ça.
Moi, ça va me plaire.
Toi, oui.
Au Flo aussi. À tout le monde.
Plus
et surtout à vous qui nous écoutez.
Plus Jean-Louis Flo, genre de choses.
David Terrier est avec nous, président de l'UNFP, le syndicat des footballeurs, et aussi président de la FIFPro Europe, qui est l'émanation évidemment européenne, donc syndicale.
David Terrier aussi, ça lui plaira.
De quoi ? Ah, bien sûr.
Une surprise. Ça lui plaira aussi.
Bonsoir,
lui,
David.
Bonsoir à tous.
Merci d'être David. Avec nous. C'est vrai que David, avec ça, la FIFRO, il est de par le monde partout.
Bah oui, là, il revient d'un voyage en Amérique du Sud.
Pour le boulot.
Ouais, hein. C'est exactement ça.
Il a la carte platine.
Même pas.
Oui, bon. Pour le travail, hein. T'étais pas à la plage tous les jours et tout, évidemment pas.
David, on a plusieurs sujets. Parce que déjà, un, il faut qu'on parle des cadences infernales parce que les joueurs de l'équipe de France ont remis ça sur le tapis il y a quelques jours. Koundé en a parlé, Mbappé en a parlé, avec des.
Bah, David, il a mis ça sur le tapis depuis des mois et des mois, même ici, il en avait parlé.
Oui, mais il y a des points de vue qui évoluent. On a entendu Mbappé notamment il y a quelques jours, c'est intéressant. Et puis, il faut qu'on parle également du fameux arrêt Diarra et que David, vous nous l'expliquiez clairement.
Mais on en a déjà parlé, on a l'impression qu'il se passe rien avec ce truc.
Bah oui, mais il y a quand même un truc, c'est que la Saladière, lui, il lâche rien et qu'il réclame maintenant 65 millions d'euros de dommages et intérêts à la FIFA, donc c'est pas rien, donc il faut quand même qu'on décrypte tout ça. Mais d'abord, première question, parce qu'au titre de président de l'UNFP, David, vous êtes membre du conseil d'administration de la Ligue, membre de droit.
Oui.
Vous avez suivi forcément ce qui se passe en ce moment en coulisses. Franck McCourt qui sort du bois, qui prend position, qui dit la Ligue ne représente plus les clubs, il faut tout changer, il n'y a rien qui va. Bref, Joseph Hougourian était avec nous il y a quelques jours. Il va y avoir un vote.
Non, il y a quelques minutes, il était là, Joseph Hougourian.
Il y a quelques secondes même, pardon. Mercredi, il y a un vote pour de nouveaux membres au CA. Tout ça se fera en visio, comme souvent. Est-ce que vous suivez ces dossiers de près ? Et qu'est-ce que vous pensez des prises de position de McCourt et Joseph Hougourlian ?
Déjà, ils s'expriment, ils ont le droit. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant, ce que je ne comprends pas et ce que je n'entends pas, c'est que c'est quand même des personnes qui ont validé tout ce qui s'est passé. J'allais dire, nous, l'UNFP, on a été contre... Au départ, la société commerciale, eux ont forcé pour ça, ont développé, ont validé, et il y a eu des votes. Et maintenant, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait des erreurs, certainement, et ils essayent de revenir. Donc, les erreurs...
C'est toujours bien de changer, c'est toujours bien de retrouver la lumière, David.
Oui, j'allais dire, on parle de Lens, c'est bien aussi de sortir avec la lampe, hein, et puis de s'apercevoir que... On peut éclairer autre part, donc ça, moi je suis évidemment ouvert.
David, Joseph Hougourian, il a été dans les premiers à dénoncer ce qui se passait à la Ligue. Si vous dites ça de par exemple l'OM, où l'année dernière encore, Pablo Longoria soutenait la Brune, ok, il y a beaucoup de clubs qui, sur les dernières semaines, ont changé d'avis. Moi, je trouve que c'est toujours bien de changer d'avis quand on retrouve la lumière pour continuer l'image. Mais Lens, c'est quand même un club qui était à la pointe dans la contestation.
Et Joseph, c'était un de ceux qui a, enfin, je vais me permettre de personnaliser avec moi, qui était pour faire une chaîne, parce que on disait déjà que c'était malheureusement la seule issue pour essayer de trouver une solution pour le foot français, mais une solution également politique, puisque on était enfermé dans des dans des circuits, dans des enclaves de deal avec des chaînes qui nous coinçaient également politiquement. Donc il y avait cette vision-là, et lui l'a partagée, l'a portée. Malheureusement, il n'a pas été suivi par les autres présidents.
Absolument.
Quand McCourt dit la Ligue ne représente plus tous les clubs, il a raison.
Encore une fois, il va y avoir des votes, et si la Ligue ne représente plus tous les clubs, il y a un moyen très simple, hein, parce que encore une fois, même si on l'a dénoncé, nous, l'UNFP, mais il y a quand même une démocratie, il suffit de réunir deux tiers des clubs qui demandent la démission du président, et qui va créer derrière en conséquence la démission des membres du CA, et puis on remet tout à zéro. Il y a la possibilité dans les statuts de le faire. Donc est-ce qu'ils sont en train de le faire? Encore une fois, je ne sais pas. J'échange avec certains présidents, mais malheureusement je suis pas dans ces secrets-là, et ils se gardent bien de me le dire.
Bon, on verra mercredi, on suit le dossier de près, bien sûr. Les cadences infernales. Quand vous entendez Koundé et Mbappé en parler, comment est-ce que vous réagissez? Alors, c'était deux discours un peu différents quand même,
hein, Jean-Louis. Toi
qui as suivi l'équipe de France, c'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde.
Koundé, c'est le message un peu classique de on joue trop et en gros on va un peu casser le jeu au bout d'un moment. Mbappé lui a expliqué qu'il avait un peu évolué dans sa réflexion. D'abord, il était sur la ligne Koundé, et maintenant il dit voilà, de toute façon les gens vont toujours nous renvoyer. De toute façon, vous gagnez des millions, donc ce sera jamais audible comme discours. Donc je pense plutôt qu'il faut réfléchir sur les temps de récupération entre les matchs, mais qu'il faut arrêter de penser qu'on jouera moins et plutôt mieux s'organiser autour.
Il était un peu résigné.
En tant que président de FIFPro Europe, en tout cas, nous le sommes aussi un peu résigné, je dois l'avouer. On va essayer d'être pragmatique, parce que de toute façon, encore une fois, certains se plaignent des cadences, et Jules et Kylian, j'échange quand même, je ne vais pas dire régulièrement, mais on en a déjà parlé souvent de ces sujets-là. Mais il y a une évidence, c'est que quand j'entends des présidents de fédération, des présidents de clubs se plaindre, mais ils ont un pouvoir que les joueurs n'ont pas avec la FIFA, hein, puisque nous, on n'a pas le droit de vote, on n'est pas consulté. Eux ont validé tout, et tout le monde nous a...
Ça veut dire quoi, valider tout, David?
Eh bien, c'est qui vote. Le CA a validé la Coupe du Monde des Clubs et la faisabilité de la Coupe du Monde des Clubs. Oui. Le président de la Fédération française a une voix, a un vote. Et il me semble que sur tous ces sujets-là, le développement des compétitions qui a été fait, mis au vote par la FIFA, tout le monde a voté. Alors, c'est des votes où on applaudit, hein. On n'a même plus besoin de faire des votes autrement, parce que tout le monde est content et d'accord de recevoir l'argent de la FIFA qui, avec l'accroissement des compétitions internationales, peut redistribuer plus d'argent. Donc c'est un peu l'école des fans, tout le monde donne un 10. Mais à la fin, on peut pas venir se plaindre. Comme j'entends certains de dire non, mais là c'est plus possible, mais les joueurs ils sont blessés, il y a trop de matchs. Oui, mais président de la fédération, président de club, vous avez les moyens de vous opposer. Donc là, on est malheureusement.
Surtout
j'allais
de la Nasser Al-Khelaifi, puisque vous parlez de lui, là, celui qui s'est plaint récemment.
C'est vrai, oui. Que juste David.
C'est pas ce qui s'est plaint, ils sont allés jusqu'à dire que le médecin de l'équipe de France était limite un charlatan.
C'est vrai qu'à ce titre-là, dans la polémique qui a l'air de mettre à mal les Bleus, c'est vrai que le PSG, qui, même dans la compète de la Coupe du Monde des clubs, n'a pas fait tourner alors qu'ils auraient pu le faire.
Même à Toulouse, trois jours avant, Dembélé joue.
Même là à aussi. Toulouse, et c'est vrai qu'on l'avait souligné aussi, même aujourd'hui, au moment du sacre au parc, enfin pas du sacre, des festivités là où on a vu la fête avec Donnarumma, c'était aussi équipe type. Donc oui, certes, le staff des Bleus est peut-être en cause, mais effectivement, le nombre de matchs qu'ils ont fait faire à leurs joueurs et un effectif, encore une fois, où on l'a souligné aussi, n'est pas forcément ultra doublé pour un club de ce niveau, c'est vrai que c'est la responsabilité du PSG.
Oui, mais inversement, allez, je vais me faire non pas l'avocat du diable, hein, parce que le PSG c'est pas le diable, mais à la place du PSG, et ils le disent et ils aiment le dire, les clubs, qui paye les joueurs? C'est les clubs. Donc, et évidemment, comme les supporters aiment le rappeler, et le grand public, ils les payent très cher. Donc, si en plus ils payent des joueurs très chers et qu'ils ne peuvent pas utiliser, c'est pas normal. Et Nous, quand on a dénoncé, et Daniel, je te remercie de le rappeler, ça fait 2-3 ans, on a quand même 2 plaintes contre la FIFA sur la concurrence des compétitions au niveau européen, où on challenge ça, parce qu'on essaye de protéger, y compris avec les ligues, hein, parce qu'on peut y revenir. Il y a des dommages qui ne sont pas que physiques pour les joueurs, il y a d'autres dommages avec ce développement de compétition. Mais pour en rester sur le PSG, ces joueurs, je ne veux pas rentrer dans le problème médical et les compétences. Quelqu'un qui est médecin depuis aussi longtemps en équipe de France, moi, je n'ai aucun joueur qui s'est plaint de ça. Donc ça, et moi, je ne suis pas spécialiste, donc je ne rentre pas là-dedans. Mais toujours est-il, on a prévenu, on a dit, ceux qui vont être impactés par ça, ça sera les sélections nationales, parce que les clubs... vont dire à leurs joueurs, tu vas pas en sélection parce que tu dois te reposer et on a des matchs importants de Champions League. Et on peut le comprendre. Moi, si j'étais président de club et que je paye très cher un joueur, j'ai envie qu'il soit en forme quand je rencontre l'Atalanta de Bergame, l'OM et Barcelone. Parce qu'il faut se qualifier, parce qu'il faut être bon. Et en tant que spectateur et téléspectateur, où on paye nos abonnements plus ou moins chers et nos places au match très chères quand c'est au Paris Saint-Germain. Bon, on va voir un PSG-OM, un OM-PSG ou un Barça ou un Atalanta. On a envie de voir Désiré Doué et Ousmane Dembélé. On paye pour ça. Et bien là, on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'il y a trop de matchs.
David Terrier, bougez pas. On revient dans quelques instants pour continuer la discussion. On parlera notamment donc de la révolution suite aux démarches judiciaires de la Sanadiara. Et on essaiera de comprendre concrètement ce qui pourrait changer avec vous. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h20, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Jean-Louis Tour est là, David Terrier avec nous, président de l'UNFP et de la FIFPro Europe. On parle des cadences infernales et donc suite aux déclarations de Koundé et Mbappé. On a bien compris donc cette résignation. Faire moins de matchs, c'est compliqué. Est-ce que déterminer un nombre de matchs par joueur est quelque chose de faisable, de faire une, je sais pas, c'est une proposition, hein, David, hein, de dire bah tiens, un joueur ne peut pas faire plus de 40 matchs et puis c'est au club de s'adapter. Après tout, ils ont l'effectif suffisant pour y arriver. Est-ce que ça, c'est une piste qui est pour vous possible?
Alors ça, c'est une piste. D'ailleurs, j'avais Daniel, tu t'en rappelles, on en avait échangé un peu sur ce sujet où nous, on était sur ce point-là, 50-55 matchs maxi par an. Mm-hmm. On a également évolué parce que, pourquoi ? Parce qu'on échange avec les joueurs et les joueurs nous disent, mais nous, on veut jouer tous les matchs. Et ça, Daniel, qui connaît beaucoup de joueurs, le sait. Je pense que Florent et Jean-Louis, qui discutent avec les joueurs, ils ont envie de jouer tous les matchs. Donc, malheureusement, on s'est résigné à dire... on doit juste avoir, et c'est là où je rejoins le Paris Saint-Germain finalement, on doit adapter les protocoles à ce calendrier, excusez-moi le terme de merde, hein, qui a été validé par eux, comme on l'a dit tout à l'heure, et on doit juste leur donner, et c'est ce que les joueurs nous demandent, et c'est là où je rejoins Kylian, des temps de repos, de déconnexion. Et c'est pour ça que...
Donc le paradoxe, c'est que vous allez en arriver à demander moins d'entraînement, alors, ou et mettre en place des plages de repos un peu sacralisées.
Le problème, c'est que David il, tout ce qu'il dit est juste.
Non, mais je cherche une solution, moi.
On peut en débattre, mais quel est son réel pouvoir, en fait?
Ça va être ma question.
À part s'exprimer dans les médias, dire des choses qui vont être relayées par certains joueurs, mais... En fait, moi, limite, j'ai envie de te dire bravo, et j'ai envie de te prendre par l'épaule, de dire bien, on va boire un coup, parce que j'ai l'impression que c'est des moulins à vent.
Avec plaisir, non, parce que tu m'as jamais invité, donc.
Non, mais tu vois, c'est qu'est-ce que tu peux faire.
Daniel,
moi, je me souviens quand t'es venu là en janvier, je crois, je sais plus, à ce moment-là. On dit dans l'émission, on ne sait même pas si le Mondial des clubs va avoir lieu, ils n'ont pas le diffuseur, ils n'ont pas ceci. Mais ils l'ont fait, non seulement ils l'ont fait, mais ils ont encaissé l'oseille. Les joueurs ont pris l'oseille. Mais tout le monde est content au final, David. Donc à l'arrivée, qu'il y ait une polémique, quand un mec se blesse, que ça foute un pataquès pas possible parce que Dembélé est blessé, que le PSG dit que le gars est un bidon, machin. Mais dans une semaine, on n'en parle plus. Dans trois semaines pour le coup. Dans deux mois, Dembélé revient. Le plus important pour le PSG, c'est qu'il soit là en janvier. Pour la musique, quoi.
Oui, mais c'est exactement ce que tu dis. Donc, et puis quand tu rajoutes à ça que nous on fait des plaintes et la FIFA qui veut toujours pas discuter avec nous et qui essaye de monter un autre syndicat de joueurs pour dire qu'ils discutent avec des joueurs, ben, on est confronté aussi à ce monde-là. Et c'est pas pour ça qu'on va arrêter de se battre. Il manquerait plus que ça, parce que sinon, il faut faire un autre métier. Mais on vit dans ce monde-là.
Après, quoi. David, le truc qui serait le plus fort, mais qui est, je pense, infaisable dans le foot, ce serait une grève générale des joueurs. Comme ça peut avoir lieu dans le sport US. Un truc, voilà. Mais là, ça me paraît compliqué. Oui, oui. Alors, l'autre possibilité.
L'autre jour, pour ce genre de truc-là, il faudrait que ce soit une ligue totalement fermée. Où les intérêts,
là, mais là avoir
avec
lockdown,
des intérêts de clubs qui vont être différents,
voilà,
avec des joueurs qui gèrent pas les mêmes cas, mais jamais.
Alors, ça, est-ce qu'il y a pas une autre possibilité? C'est, bah d'ailleurs, ça va faire la transition avec l'arrêt Diarra dans un instant, de se tourner, pourquoi pas, vers les juridictions civiles, d'inscrire dans la loi justement ces histoires de temps de jeu qui pourraient être assimilés à un temps de travail maximum aussi, au-delà duquel
non,
on pourrait pas.
Les joueurs voulaient pas. Voilà. Ils veulent jouer, ils veulent tout jouer.
Les joueurs, ils veulent jouer.
Oui, mais c'est pas pareil quand même.
Ça, tu peux. Moi, je suis assez d'accord.
Si c'est une question de santé publique,
ouais,
et que du coup le civil prend le pas sur les lois sportives, ça peut être une solution.
On est un peu comme dans le cas de ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour la gouvernance de la Ligue. C'est qu'à un moment donné, pour le dopage dans le cyclisme, ça a été pareil. À un moment donné, il faut que la puissance publique s'empare du sujet. C'est pas possible autrement. C'est-à-dire que moi, cet argument sur les joueurs veulent jouer tout le match, on s'en fout. À un moment donné, si on va dire physiologiquement, médicalement, quelqu'un dit ouais non mais vous avez envie de jouer 65, mais en fait on a calculé les trucs, il faut 60 fois 90 minutes maximum, par exemple. Eh ben c'est comme ça. Et même si le joueur il va en jouer 61, 62, 63, s'il y a une loi, une règle qui stipule que c'est comme ça. Donc tu fais aussi parfois des lois contre l'avis des principaux intéressés. Pour des raisons évidemment qui seront débattues entre scientifiques, entre médecins, etc. Donc effectivement, moi je pense, David, que la seule issue, ça ne viendra pas des joueurs qui sont soit égoïstes, soit impuissants, soit vénaux.
Bah, juste voilà. Des salariés.
Ouais, mais des salariés, mais des salariés qui ont quand même une situation très très particulière parce que, par exemple, sur la Coupe du Monde.
Le salarié n'est venu en disant moi je suis prêt à gagner moins pour jouer moins.
Ouais, exactement.
Alors,
et à la Coupe du Monde des clubs, moi j'ai surpris, enfin j'ai parlé avec certains joueurs et pas des plus importants. Il y avait quand même des retombées, même pour tous, hein, quelles que soient les sélections. Bon, ben. Ils n'étaient pas satisfaits des retombées qu'ils avaient par rapport à tout l'argent qu'avait leur sélection. Mais enfin, ils ont quand même pris le chèque et puis voilà, ça s'est arrêté là. Donc, David, est-ce qu'il n'y a pas effectivement, comme le dit Jean-Louis, moyen de, on va dire, de légiférer à un moment ou à un autre sur le temps de jeu des joueurs professionnels?
Alors, on a fait, hein, on a toutes les études. Hein, les médecins et des spécialistes disent qu'au bout de 50, après 55 matchs, le joueur s'expose davantage à des blessures sur une saison et sa performance baisse, quand il joue plus de 5 matchs, ce qu'on appelle back-to-back, donc c'est des matchs tous les 3 jours, il s'expose au même risque. Donc ces éléments, on les a. Mais ce que je veux vous dire, c'est nous, l'UNFP, par exemple, on a pris ce chemin-là, je ne sais pas si c'est Florent ou Jean-Louis qui le disait, et ça a été très très mal repris par l'équipe, je suis désolé de le dire, mais en tout cas, on a attaqué... l'État français, puisqu'ils sont signataires de la charte sociale de l'Union européenne, c'est un pays membre de l'Union européenne, justement sur ce droit au repos et ces temps de congé, ces temps de, et donc on essaye de faire bouger les choses en plus des plaintes qu'on a fait contre FIFA. Donc on va sur cette dimension-là mais les joueurs nous demandent surtout des temps de repos et des temps de déconnexion parce que, et encore une fois, je ne veux pas non plus contredire tout le monde, mais quand Jérôme Rotten, qui a été international, qui a joué la Champions League, dit oui, mais il faut arrêter, moi je joue aussi tous les 3 matchs. Oui, mais c'était dans une autre période où la pression médiatique était différente, où les joueurs, avec les données personnelles qui sont prises et collectées au quotidien sur eux, ils peuvent plus gérer comme Jérôme le faisait, où il restait à l'entraînement sur le côté gauche et puis il mettait 3 centres et puis et c'était comme ça. Mais j'ai rien contre Jérôme parce que c'est quelqu'un que j'ai en plus défendu quand il était au PSG mis à l'écart et c'est quelqu'un que j'apprécie au demeurant. Mais c'est plus pareil et les réseaux sociaux mettent une pression, un impact sur les joueurs et
on pourrait dire aussi qu'il y a un niveau de préparation qui est plus développé aujourd'hui qu'à son époque aussi.
Et même une intensité de match,
blessures et les
sans
fatigues.
Doute. Voilà. Alors, passons au cas Diarra, parce que le temps passe, puis le sujet évidemment des cadences infernales reviendra. La Salah Diarra, donc, dans le cadre d'un conflit avec le Lokomotiv Moscou, a réussi à obtenir de la part de la Cour de justice de l'Union européenne un arrêt qui statue que certaines règles de transfert de la FIFA violer les principes de l'UE en matière de libre circulation des travailleurs. Donc c'est une vraie révolution dans le monde du foot. Hein. Effectivement, ce qu'on appelle la QEJ reconnaît que le système de transfert empêche les joueurs d'exercer leur droit de résiliation des contrats de travail sans motif valable. C'est-à-dire, en gros, tu as un CDD dans la vie de tous les jours, je sais pas, dans une boulangerie, dans une radio, tu veux démissionner, tu démissionnes, tu n'as pas forcément à te justifier. Dans le foot, pas possible. Donc ça, la Cour de justice de l'Union européenne dit, effectivement, il y a problème. Diarra, du coup, a demandé une compensation financière qu'il n'a pas obtenue de la part de la FIFA. Et là, il lâche pas l'affaire. Il réclame maintenant 65 millions d'euros de dommages et intérêts. Il veut aller vraiment au bout du process.
Alors, parce que lui, quand il a rompu son contrat, il n'a pas pu retrouver de club tout de suite. Et c'est ce préjudice-là.
Ça lui a empêché un transfert en Belgique.
Exactement. Ouais. Et donc, il évalue ce préjudice ainsi. Ouais.
Bon, l'histoire de Diarra... C'est, on va dire, c'est un peu le lanceur d'alerte hein, dans cette affaire. Mais David, vous, en tant que président du syndicat, comment est-ce que vous vivez tout ça? Et est-ce que on est vraiment à l'aube d'une révolution du système de transfert ou finalement peut-être pas? Enfin, moi, nous, on a du mal à décrypter en fait juridiquement ce qui peut se passer maintenant.
Alors moi, je suis pas avocat et juriste, hein, parce que je me couvre auprès de Daniel déjà, qui est prêt à bondir si je dis une connerie. Nous déjà, on l'a accompagné, soutenu la Sana depuis pas le début, mais quasiment. Donc en fait, et c'est très juste ce que tu dis. La CJE a dit clairement que le système des transferts imposé par la FIFA est illégal. En tout cas, dans la dimension européenne, j'entends. Donc, à partir de ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un joueur a le droit de faire une rupture de contrat, avec ou sans juste cause, et le préjudice subi par le club doit être calculé par les tribunaux civils, comme... Quand un club ne veut plus d'un joueur et dit, imagine, ou ment parfois en disant « oui, mais c'est bagarré, donc je vais le licencier », ce joueur-là, il est viré par le club, on passe devant la commission juridique de la LFP qui constate une non-conciliation et donc valide la rupture de contrat. Évidemment, le joueur, en général, appelle l'UNFP et le service juridique. On va au prud'homme, on l'accompagne. 99% des cas, le joueur gagne. Mais qu'est-ce qu'il gagne? Les salaires restent dus, parce que c'est le droit national.
Mmh. Bien sûr.
Donc, au jour d'aujourd'hui, le joueur a la capacité de faire la même chose. Et la FIFA, contrairement à avant, sera... Déjà, la Ligue sera obligée de valider la rupture de contrat et surtout, la FIFA sera obligée de délivrer un certificat international de transfert, donc le joueur pourra signer ailleurs. Et après, le club pourra, lui, faire le chemin inverse, aller devant les tribunaux civils et dire « bah voilà, moi j'avais tel joueur, j'estime que j'ai été lésé et donc chiffrer le préjudice et le joueur devra payer le préjudice ». Ça, c'est où on en est aujourd'hui. Je vais prendre un exemple dans les faits. On va prendre Adrien Rabiot, puisque c'est un cas qu'on a beaucoup débattu.
Ouais,
Adrien Rabiot, vous nous avez pas vu sortir, nous, l'UNFP, dessus. Pourquoi? Parce que les deux joueurs, on a parlé beaucoup d'Adrien, ils ont fait une faute. Mmh. Donc, en fonction, nous, on aurait défendu ou sollicité ou on serait sorti dans la presse si... La sanction de Marseille n'avait pas, enfin, était disproportionnée, oui, par rapport à la faute des joueurs. Mais les joueurs ont fait une faute, les deux. Mais derrière, le club dit, bah nous, puisque c'est ça, on le veut plus et on le met sur la liste des transferts, donc ils veulent plus d'un joueur, mais ils demandent 15 millions. Ça paraît un peu aberrant. Donc s'il fait une faute, vous le sanctionnez, ou alors, et il revient dans l'effectif, mais vous pouvez pas. Dire, eh ben, toi tu pars, mais en plus tu vas aller où on te dit et pour telle somme. Mais là, Adrien Rabiot aurait pu dire, bah, c'est une juste cause, puisqu'ils veulent plus de moi, ils l'ont dit dans la presse, ils l'ont. Et donc, je fais
son avocat avait d'ailleurs parlé de l'arrêt Diarra dans l'after, hein, en disant, il y a cette possibilité maintenant.
Mmh. Voilà. Et donc là, il aurait pu. Et après, le préjudice aurait été chiffré par le juge si l'OM faisait des démarches. Donc là, ça c'est. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Les clubs ne veulent pas que ce système,
vertueux pour leur indemnité.
Bah oui.
Voilà. Et ils veulent surtout pas le faire sauter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, il y a un autre joueur de top classe de notre championnat qui était aussi réfléchi comme ça, mais les autres clubs qui le prenaient, ils ont dit clairement, nous ne prendrons pas de joueurs s'il y a une rupture unilatérale. Donc en fait, c'est les clubs qui ont entre guillemets
Ils verrouillent de manière organisée. Ils verrouillent le système aujourd'hui, en fait, c'est ça?
Bah bien sûr, ils verrouillent le système. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont quand même fait ça. Il y en a en Afrique du Sud, mais il y en a d'autres. La FIFA ne nous donne pas encore les éléments parce qu'ils les gardent. Ils disent qu'ils attendent la décision définitive, mais ça peut durer longtemps. Mais en tout cas, ils nous le disent pas. Mais c'est pas des joueurs importants. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, des transferts potentiellement n'existe plus.
C'est ça la question, c'est ça. David Terrier, parce que pour l'instant, on a du mal à le rendre concret, cet arrêt Diarra, parce qu'il n'y a pas eu d'autres cas comme l'arrêt Bosman avait fait jurisprudence et on a vu partout.
C'est comme si
mais est-ce que ça veut dire maintenant que...
Bien sûr, c'est pas leur intérêt économique, on l'a bien compris.
Est-ce qu'un joueur maintenant, est-ce que vous imaginez ça sur le prochain mercato, à qui il reste par exemple 3 ans de contrat, peut dire, bah, moi j'applique l'arrêt Diarra parce que je veux aller dans tel club, peu importe que mon club actuel et une indemnité ou pas?
Mais il peut le faire. Il peut le faire. Le système des transferts actuellement...
Qu'est-ce qui empêche les clubs de le faire?
Mais les clubs ne veulent pas le faire parce que sinon ça fait sauter le système. Vous comprenez?
Le château de cartes.
Joseph Gourlian avant a dit je perds 20-25 millions tous les ans, il faut que je le rattrape avec le trading. Donc c'est devenu, les joueurs sont devenus évidemment des actifs financiers, hein, c'est plus des êtres humains, c'est des actifs financiers qui sont validés comme ça par la DNCG. Et donc personne ne veut faire sauter le château de cartes. Mais nous non plus. Sauf qu'on est en train de dire à FIFA, attention, il y a ce no man's land que vous avez créé parce que vous avez voulu vous protéger vous, en donnant l'accès et l'autorisation de la délivrance de CIT et que vous pouvez plus sanctionner le joueur alors qu'avant il était sanctionné le joueur, il pouvait être suspendu. Ça n'existe plus parce qu'ils l'ont retiré de l'article 17 de la FIFA. Tu vois Daniel, finalement je suis technique, hein. Plus que quand j'étais joueur. Mais ce que je veux dire c'est on vit là maintenant, on vit dans ce no man's land. Et la FIFA essaye, à travers son règlement, ce qu'on appelle le RSTP, c'est le règlement des transferts, essaye de remettre des contraintes qui vont de nouveau aller contre l'arrêt Diarra, donc qui seront faux. Et ils essayent de nous mettre autour de la table en disant, après consultation de toutes les parties, nous avons décidé de. Et donc nous, on s'oppose à ça. Mais encore une fois, moi, quand je l'explique au club, parce que j'essaye d'aller et de rencontrer le maximum de dirigeants depuis le début de la saison, nous, on ne veut pas faire sauter ce système des transferts. On ne veut pas faire sauter la banque. Nous, on veut un système des transferts qui corresponde à ce qu'a dit le juge de la CJUE. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un système des transferts qui soit transparent, objectif et non discriminatoire. Transparent, ça veut dire quoi? Il faut que le joueur et le club sachent dans quelles conditions il doit partir, financières. Objectif, évidemment, il ne faut pas faire comme en Espagne où vous mettez des clauses à 1 milliard d'euros sur un joueur. C'est pas... Et non discriminatoire, et ben ça c'est que le club n'ait pas la possibilité de licencier un joueur et justement, le joueur ne peut pas faire de rupture de contrat. Et à partir de ce moment-là où on respecte ça... Et eh ben nous, on a envie de faire un système des transferts qui continue à faire vivre les clubs, évidemment, et qui d'ailleurs soit redistribué davantage aux clubs formateurs, parce que même s'il y a une partie qui existe, quand on voit les gros clubs, maintenant, je pense qu'ils devraient redistribuer plus aux clubs formateurs, et on doit trouver des solutions, mais ils ne veulent pas discuter avec nous.
Merci David Terrier, on suit tout ça évidemment, c'est important parce que ça pourrait bien donc faire exploser le système.
Oui, il y a juste une info, il y a surtout quelque chose qui peut faire exploser le système, c'est qu'il y a une class action qui a été lancée, qui s'appelle Justice for Players, et je suis là à Amsterdam, on doit les rencontrer encore une fois pour la troisième fois demain, parce que cette class action a été lancée et potentiellement... elle va se baser sur le fait que comme ce système des transferts a été jugé illégal depuis sa mise en place, donc depuis 2001, tous les joueurs, peu importe qu'ils aient subi ce qu'a subi la SANA ou pas, c'est-à-dire qu'ils se basent sur le fait que ce système des transferts jugé illégal par la Cour de justice de l'Union européenne, il y a une société spécialisée qui a dit que ça avait généré des pertes pour les joueurs à hauteur de 7,7%. Donc, en fait, tous les joueurs pourraient rejoindre cette class action et ça ferait un montant considérable à demander à la FIFA. Et c'est pas ce qu'on souhaite de nouveau, parce que quand vous touchez l'argent de la FIFA, vous touchez l'argent qui est redistribué aux fédérations. Donc, il n'y a aucun intérêt de la part de FIFA et de Gianni Infantino de se prendre pour Trump. Mais malheureusement, il continue à le faire et je pense qu'il est une mauvaise influence.
On avait remarqué sa volonté de toute puissance à Infantino.
Merci David.
Et il veut discuter qu'avec ceux qui enfin il veut avoir que des ce qu'on appelle des yes man autour de lui quoi.
Ben, en tout cas, on suit ça et quand vous serez de passage à Paris, on fera le point avec plaisir. Bonne soirée, merci
David,
beaucoup.
David, à bientôt. Ouais.
À bientôt.
Merci à vous, salut à tous.
Salut David Terrier, président de l'UNFP, c'est des sujets qui sont un peu techniques mais passionnants.
Et important.
Je me demande si cette histoire d'arrêt de dire à un moment ça va s'enclencher et tout va tomber.
Bah, c'est...
J'ai l'impression que personne n'y a réellement intérêt, ni les joueurs ni les clubs.
Quand j'entends que les syndicats ne veulent pas que le système tombe, parce que mine de rien, il y a quand même des financements de clubs amateurs derrière.
Bien sûr, à mon avis, ça ne peut pas.
Ça semble. On va trouver sans doute une façon de fonctionner qui convienne à tout le monde. Dans un instant, l'équipe de France qui joue demain face à l'Islande, toutes les infos de veille de match, et puis ce match de fou là entre Israël et l'Italie. Daniel Emmanoussia va nous rejoindre. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h41, Daniel Riolo est là, Jean-Louis Tour est là, Florent Gautreau est là. L'équipe de France, les gars, Jean-Louis demain sera au Parc des Princes, parce que maintenant c'est le retour au Parc des Princes, comme aux grandes années de Michel Platini, de Didier Six, de Raymond Coppa.
De quoi ?
Jean-Pierre Papin.
Jean-Pierre Papin. Coppa, tu l'as pas connu, tu m'as descendu en Raymond Coppa, là, comme si tu avais vibré devant.
Pas du tout, mais il a joué au Parc des Princes.
Enfin, il a joué beaucoup à Colombe. Hein.
Ouais,
non, Colombe, mais Parc des Princes, si, début.
Tu cherches.
Ouais, je suis pas sûr.
Le nouveau Parc des Princes, c'est 72, donc non.
Non, mais l'ancien Parc des Princes, oui, aussi eu des matchs.
Dans l'ancien, je crois pas que l'équipe de France jouait.
Joue à Colombe.
Il a voulu faire tomber un nom, là, mais non. Hein. C'est pas grave, Gilbert. Continue.
Bah, j'aurais pu dire Franck Sauzet, ouais, Eric Dimeco.
Kostadinov.
Bon, en tout cas, on a la compo pour demain.
Alain Courriol.
Les gars, Alain Courriol. Alain Courriol, je salue le frère d'Alain Courriol, Albert.
Ah, pourquoi tu le salues ?
Parce que c'est un pote. Albert Courriol, magnifique. Compo demain. Maignan, Koundé, Konaté, Upamecano, Théo Hernandez, Tchouaméni, Koné,
le double pivot.
Voilà. Olise, Barcola annoncé titulaire. Et devant, Thuram, Mbappé. On aurait donc une sorte de 4-4-2 en fait.
Oui. Bah, c'est ce qu'a aperçu Arthur Perrault, effectivement. Donc,
il a craqué lui, Clos.
À voir comment ça va s'organiser devant. Est-ce que c'est vraiment une ligne?
J'ai pas compris. Il y a les deux milieux de terrain.
Thuram, il connaît.
Je suis pas sûr. Où est-ce que tu mets Olise? Olise, il irait sur un côté. Thuram sur un côté. Et qui devant?
Non, en fait, t'aurais.
T'as 4 joueurs offensifs. Après, il faut savoir, est-ce que c'est avec 2 points,
ce serait pas mecs sur les côtés.
Ce sera comme la dernière fois. 4-2-3-1, tu laisses Olise dans l'axe. Et le seul truc qui est assez marrant.
C'est Barcola à droite et Thuram à gauche.
Ce qui est marrant.
Thuram à gauche, mais il joue jamais.
Ce qui est marrant, c'est ça, le truc. C'est qu'en fait, tu fais. Qui veuille garder le système, je trouve ça légitime. Enfin, globalement, le système qui a marché. Parce que ça permet un truc qui est quand même bien, c'est de garder Olise dans l'axe. Mais ce qui est marrant, c'est que. Il dit à chaque fois, à Thuram, il va devoir briser le plafond de verre de l'efficacité et tout. Et il lui dit oui, mais il peut jouer qu'à deux dans l'axe. Et c'est pour ça qu'avec son père, ils ont choisi l'Inter avec Lautaro et compagnie. Enfin, l'histoire, on la connaît par cœur. Eh ben non, c'est pas grave. Thuram, il va jouer et sans doute, il va rejouer sur le côté gauche.
Bon, bah. Les chances sont seules à le mettre à gauche, d'ailleurs.
Chronique d'un. Enfin, moi, je suis désolé pour Marcus Thuram, que j'adore, parce que je pense qu'effectivement, il est victime du système. Et à l'inverse, il bosse effectivement beaucoup pour le système de Deschamps. Hein. Il est dans l'attitude, il n'y a pas de souci. Ouais.
Et puis, tu ajoutes à inverser, Thuram met Mbappé, et puis voilà, tout le monde est content. Hein. Tu mets Mbappé à gauche, Thuram dans l'axe.
Et donc, Théo Hernandez va remplacer Digne.
Oui. Ouais, alors ça, a priori,
ça,
oui.
Ça, l'histoire de Théo, des frères Hernandez, là. Et notre poste de latéral gauche, c'est vrai que quand même, par rapport à ce qu'on dit, l'équipe de France, on est quand même pas mal.
Tu vas l'installer ou pas, Digne? Pourquoi, là, d'un coup, tu lui dis, attends, on va peut-être voir Théo Hernandez si par hasard il ferait pas un bon match, comme en club, on l'a oublié, on sait même plus où il est, on sait même plus ce qu'il fait. Là, j'avoue, je comprends pas, là, cette espèce d'alternance à gauche, là.
Bah, déjà, on a un vrai souci, parce que même Lucas Digne, que j'aime beaucoup, Si tu veux, si on a ressorti Lucadine, c'est-à-dire à quel point on est
fiable, Lucadine quand même.
C'est quand même pas.
On a mieux en arrière gauche.
Bah non.
Non, mais c'est te dire que puisqu'on parle de la formation et de tout ce que fait la France, t'arrives avec à ressortir. Et encore une fois, il fait le job. Il y a pas de souci, Lucadine en 2025. Bon, ok.
Sinon, c'est Truffert ou Merlin.
Truffert, qui joue en première ligue.
Oui, bah donc Lucadine alors.
Voilà. Didier Deschamps, énervé aujourd'hui, parce qu'évidemment, on lui a reposé des questions sur les blessés parisiens et tout. Je vous propose d'écouter ce qu'il a répondu.
On ne va pas rentrer dans les détails. Chacun d'entre vous peut avoir des éléments à charge, à décharge. On fait les choses de manière consciencieuse, systématiquement, avec des échanges. Ça va des deux côtés, les échanges. Hein. Peu importe le club, et je ne cite pas spécialement le Paris Saint-Germain. Le protocole, tous les joueurs sont censés venir acter leurs blessures à Clairefontaine. Là, j'ai eu deux joueurs, William Saliba et Ryan Cherki. Je ne vais pas les faire venir, alors qu'on sait pertinemment, parce que notre médecin a reçu les images des examens. Et à partir du moment où c'est pas possible, c'est pas possible. Et après, j'ai le Bayern qui m'appelle, le Real, et je vous fais jouer à vous, autrement. Non, mais après, c'est moi qui prends les décisions. J'ai mon staff, c'est ma responsabilité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est là où les intérêts divergent. Mais je tiens toujours compte du ressenti des joueurs, qui est essentiel, même s'ils ont toujours l'envie de jouer.
J'ai rien compris, c'est infernal.
Il a dit le problème c'est qu'il y a deux réponses collées et puis une question au milieu.
Il faut se concentrer un peu, mais tu comprends, il a dit les joueurs doivent venir faire constater leur blessure, et d'ailleurs Saliba n'est pas venu ni Cherki.
Non, il dit les joueurs qui sont vraiment blessés comme Saliba et Cherki, ils sont pas là. Les joueurs qui sont aptes, ils sont là.
Il n'y a pas vraiment de cohérence. Et dans l'histoire de Dembélé, je vais le redire, je l'ai dit hier, Ils ont reçu les examens, les images. Si le médecin de l'équipe de France estime que ça passe, il a le droit de l'estimer, mais il a également le droit de se tromper. Dembélé ne s'entraîne pas normalement par rapport à son standing, son standard d'entraînement du PSG, c'est également un problème. Si on ne le fait pas se forcer. Alors, moi, tu vois, ce pataquage, je le trouve un peu inutile. Il y a un médecin qui a décidé. Soit on dit ce médecin il est bidon, faut le changer, machin. Soit la responsabilité incombera à celui qui porte ce jugement. Moi je suis pas médecin, j'ai pas envie d'attaquer un médecin. Mais si à l'entraînement Dembélé il a pas forcé ou il a pas fait ce qu'il fait au PSG, ou si à 29 km/h au PSG on estime que tu joues pas et que en équipe de France il joue. Bah ouais, là il peut y avoir un problème. Il y a eu un problème.
Le seul problème, c'est que.
S'ils se parlent pas, visiblement ils sont pas assez parlés.
Si le staff médical du PSG a des arguments aussi importants que ceux qui prétendent avoir envoyé à l'équipe de France, la conclusion, la demande qui doit être faite par le PSG, c'est de dire non seulement il ne joue pas, mais il doit être retiré du rassemblement.
De faire
la pression. Et là, il reste dans le rassemblement. Moi, si il reste dans le rassemblement et que je me dis c'est déjà un danger, si je suis le PSG, je redis à nouveau, attendez, on vous a demandé de ne pas le faire jouer du tout, de ne pas le prendre. Or, il est pris. S'il est avec les Bleus, il est susceptible à tout moment d'être géré par le médical et de rentrer. Donc déjà, moi, je trouve cette première chose assez bizarre. Après, dans ce qu'a dit Deschamps, il y a un truc toujours qui me gêne.
C'est pas juste un problème de communication. Ils se sont mal parlé. C'est impossible, en fait, cette communication entre les deux. Parce que les deux ont des intérêts différents. C'est-à-dire que les clubs, ils vont toujours exagérer les petits bobos des joueurs. Absolument. Et Deschamps, ils se sont obligés quand même de défendre l'équipe de France, de défendre ses intérêts. Donc ça pourra jamais marcher, la communication entre les staffs.
Alors, si c'était très, très, très grave, le PSG aurait dit, attendez, il ne faut pas qu'il vienne au rassemblement. On vous demande de le sortir du rassemblement. Apparemment, c'est pas
une solution un peu bâtarde. Voilà. C'est-à-dire que
ne le fais pas jouer si tu peux.
S'il est en forme. On est d'accord que logiquement il démarre.
C'est ça.
Donc il commence pas le match. Donc ça veut dire, mais c'est un peu con parce que tu peux très bien te blesser à la 48e.
Peut-être encore pire.
Ça que moi je disais, il faut aller.
Tu t'es pas bien
c'était
échauffé
le principe
parce que
de précaution
pas bien
qui
quand tu rentres
le principe de précaution. Il n'est pas à 100% pour débuter le match. Donc t'as même pas besoin de le faire rentrer
moi,
autant.
Moi en fait, je suis pas d'accord non plus. Avec
laisser trois jours de repos
précaution.
En plus. Quand
si le mec, il est pas bien, il a pas à être là.
C'est
et il va même pas sur le banc.
Il aurait
un moment ou un autre. Si un staff médical dit oui et le joueur dit oui, c'est oui. Il y a pas de oui mais.
Le seul principe de précaution pour moi, et c'est pour ça que j'insiste, y compris sur le fait que le PSG abuse dans l'idée dans le chapeau qu'il veut faire porter au staff médical des Bleus, c'est si vraiment vous pensez qu'il y a un doute qui peut mettre en péril même la suite de la saison, etc., demandez fermement à ce que Dembélé ne joue, mais ne vienne pas. Non, mais en disant, oui, mais si dans leur conclusion c'était, on vous demande de nous le renvoyer parce que c'est pas possible, et que là les Bleus font le fast forcing en disant, nous on veut le garder, on verra sur place. Je pense que là les Bleus seraient plus mal. Là, si en gros c'est deux médecins qui estiment un peu différemment l'état de Dembélé, qui disent il est en train de s'arranger, c'est une cuisse, c'est pas l'autre, c'est une chose. Moi, il y a un truc qui m'agace. Alors, dans Deschamps, outre que le gloubi-boulga qui nous sort, même si c'est sur deux réponses, on n'y comprend rien, il y a un truc de dingue, c'est toujours ce... C'est les joueurs qui décident, c'est les joueurs... Putain, mais c'est quoi ce truc hallucinant? Donc Dembélé, il dit, ouais, ça va mieux, coach, là, je sens plus rien, là, à l'échauffement, je suis bien. Ok, tu vas jouer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est comme David Terrier, tout à l'heure,
qui nous dit, histoire de diluer un peu les responsabilités.
Les joueurs veulent jouer.
L'industrie de pointe, t'as pas un mec qui dit ça va. Il y a pas de ça va, il y a une image qui dit ça va.
Moi, je pense qu'ils disent tous ça va, les joueurs.
Mais oui, mais il n'y a pas de ça va. Il y a un document médical qui dit si ça va.
Ouais, tu peux pas tout voir non plus.
Parce que si tu vois tout, aujourd'hui, tu vois tout. Le peu qu'ils se sont entraînés, à chaque fois les capteurs GPS disent qu'il s'est arrêté à 29 km/h, qu'il n'a pas poussé au-delà, c'est qu'il y a une raison. Et c'est visiblement ce qui s'est passé.
Quand Deschamps dit je vous fais jouer à vous, il répond à Florent Germain qui demande est-ce que votre compo de demain va être conditionné par la polémique, est-ce que vous allez faire jouer Barcola, et c'est pour ça qu'il enchaîne en disant oui, si je fais ça, j'ai le Real qui va me demander la même chose, le Bayern qui va me demander la même chose, et après, je vais jouer à vous.
Club sélection.
D'ailleurs, à ce titre, je trouve très bien pour le coup qu'il mette Barcola, s'il pense devoir mettre Barcola, qu'il ne cède pas à autre chose. Il a envie de mettre Barcola, il met Barcola. Il a raison là-dessus, il prend ses responsabilités.
Et puisqu'on ne sait pas, on n'a aucune info sur le niveau de Flo Germain en foot. Quelqu'un l'a déjà vu jouer?
À la place de Théo Hernandez, je pense qu'il fait le job.
Il est gauche.
Je crois que Badel est très bon.
Oui, mais aucun rapport.
C'est pas le padel, c'est le padel sur la mer Méditerranée.
Sur un terrain, est-ce qu'il peut faire illusion?
Que je ne sais pas.
En tout cas, il est moins tatoué que Théo Hernandez.
Bon, on l'a pas vu torse nu.
J'espère que c'est pas les seules choses.
Moi, je pense qu'il a un côté de Théo Hernandez dans la vie. Je suis sûr qu'il a un tatouage.
Dans un instant, on part en Italie et on se retrouve pour le reste de l'actu du jour.
À jamais les premiers, il y a marqué.
Notamment une histoire marrante qui concerne l'équipe de France indirectement. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilles Darbribois.
23h53, encore 10 minutes ensemble. Jean-Louis Tour, Daniel Riolo, Florent Gautreau. Est-ce que Daniele est parmi nous? Daniele Manoucia, est-ce qu'il est là?
Bonsoir à tous, bonsoir. Salut à tout le monde.
Quel match de folie là. On suivait ça en même temps match que notre interview.
À mon avis, il a stressé comme une demi-finale de Coupe du Monde.
De Joseph Ogonor, ça s'est terminé par une victoire, hein, 5-4 pour l'Italie. Enfin, c'est quand même pas glorieux de galérer comme ça pour battre Israël.
Ah non, c'est même triste, mais bon, dans les foot, tout est relatif, on prend ce qu'on a à prendre, et c'est une belle victoire, finalement, tout le monde était content. Gattuso, il a dit, on est fou. ESPN, ils ont écrit que c'est peut-être les matchs les plus fous qu'on pourrait jamais voir. Cambiaso, il a dit qu'il est rentré à la deuxième mi-temps, l'arrière gauche de la Juventus, il a dit peut-être les matchs les plus bizarres de ma vie. L'Italie a gagné 4-2 à 10 minutes de la fin, c'était 4 partout à la 90e minute et on a gagné 5-4 avec un centre de Tonali qui est rentré tout seul.
Il y a eu des buts totalement surréalistes.
Daniele, quand même, malgré tout, ce soir, ce qui va intéresser les Italiens, c'est la victoire parce qu'il faut absolument recoller le résultat et l'ambiance et la folie et tout. Ça va mettre les gens en joie.
Des Norvégiens,
une fois qu'on va se réveiller demain matin, on va quand même constater qu'il y a eu deux buts contre leur camp des Italiens.
Oui.
Ridicule. Donnarumma a fait une sortie cataclysmique.
Pas que celle-là.
Coûté un but annulé par l'arbitre, on ne sait pas vraiment pourquoi, il n'y a pas de raison à ça. Que ça fait 5-4 dans un match complètement délirant. Que l'Italie a, selon moi, largement les moyens de trouver un 11 de qualité pour battre Israël. Ce qu'ils ont fait, mais pas avec ce stress-là. Parce que quand tu regardes les forces en présence, il y a quand même de quoi monter une équipe tout à fait correcte pour gagner sans stress. Et que moi, ce qui se dégage de cette équipe, au-delà de la nervosité extrême de Gattuso, je ne sais pas s'ils vont à la Coupe du Monde comme elle va supporter, mais c'est le manque de confiance que dégage cette équipe, comme si elle avait tout le poids des deux Coupes du Monde qu'elle vient de rater. Et comme si en Italie, le stress de dire on va encore pas y aller, parce que c'est ce qui se dit en Italie. Il faut quand même savoir qu'en Italie, tout le monde dit on va encore pas y aller. Comme s'il y avait une sorte de malédiction. Et les gens sont tellement dans cet esprit-là qu'on a l'impression que ce stress et ce manque de confiance, ils tétanisent les joueurs. Si tu regardes le match ce soir, le but qu'ils prennent.
Alors, la italienne, c'est toi ou c'est Daniele?
Là? Non, mais c'est vrai, il a raison.
On est en train de discuter, non? Mais la combinaison du but de la tête des Israéliens, mais enfin, la combinaison, on la voit à 10 km, ils dorment ou quoi derrière? Ça, les buts contre leur camp. Mais Donnarumma, à un moment, il y a une passe en retrait. Mais il fait n'importe quoi.
Daniele, c'est toi qui as la parole.
Il y a un peu un mélange de malchance. Parce que, par exemple, si on regarde les matchs de Locatelli, il a mis un but contre son camp et un minute après, il a pris la transversale avec une belle retournée. Et après, dans la deuxième mi-temps, il a sauvé un but sur la ligne de son but, justement, avec Donnarumma qui l'avait fait.
Il y a zéro maîtrise. Il y a zéro maîtrise, en fait.
Non,
Ça joue comme ça, mais il n'y a pas de maîtrise.
Non, il n'y a pas de tranquillité. C'est vrai qu'il joue avec les jambes qui tremblent.
Voilà.
Et sauf Moïse Kean, qui était un peu plus assuré que les autres, Retegui aussi. Mais c'est vrai qu'à chaque action, on aurait dit qu'Israël allait plus marquer. Et effectivement, ils ont marqué deux buts dans les dernières 10 minutes. Ah Israël.
Oui, c'est fou.
Après, là, il y a encore si.
Tu peux dire à Gattuso sur Donnarumma, c'est assez marrant parce qu'en deux actions, une sortie aérienne dont on a parlé et une relance courte exceptionnelle que vous pourrez vous refaire, il a montré absolument les deux points sur lesquels, les deux raisons pour lesquelles le PSG ne voulait plus de Donnarumma.
Là, le trait était particulièrement grossi quand même.
Je vous conseille la relance courte aussi pour voir ce que ça a donné.
Daniel, mais si sur le premier but d'Israël, il n'est pas très sûr de lui. Il reste dans les buts jusqu'au dernier moment. Mais bon, on verra.
Victoire 5-4 tout de même de l'Italie qui reste dans la course.
Non, l'Italie espère que demain, c'est demain la Norvège.
Oui, c'est demain la Norvège, mais on a encore 6 buts à rattraper, même si on gagne tous les matchs.
Si la Norvège, elle a le droit de faire un faux pas, la Norvège contre la Moldavie.
Bah, je doute.
On n'y croit pas.
Tiens, et puis sur l'autre, je voulais saluer Sylvain sur notre numéro WhatsApp. Sylvain qui nous écoute depuis 20 ans, qui bosse dans le rugby, qui a été joueur pro de rugby, et qui dit vous êtes mon rituel au petit déj depuis 20 ans. Donc il est aujourd'hui manager d'une équipe de rugby, Sylvain.
Sylvain, on embrasse Sylvain.
Les gars du rugby nous écoutent.
Au petit déj.
Au petit déj.
Et qu'est-ce qu'il mange au petit déj?
Un rugbyman,
ça mange quoi? Un
poulet.
12 poulets.
Voilà. Donc si Sylvain veut passer un jour dans le studio pour parler foot et rugby, ce sera avec plaisir. Dans un instant, les nuits du Casar enchaîné, bien sûr. Votre nouveau rendez-vous incontournable qui cartonne. C'est tout de suite avec toute l'équipe, avec JC et JC.
RMC, l'after foot.